Interview.
2 jours.
Bonjour, ici R. Duois et c'est l'heure de l'interview avec au studio Oriane Ponce. Bonjour.
Bonjour.
Oriane Ponce, vous êtes chanteuse soprano.
Oui.
À votre côté, il y a Lise Heut. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et vous êtes accordéoniste classique.
Tout à fait.
Et pour finir, donc Sarah Pahon. Bonjour.
Bonjour.
Pour du chant en alto.
Tout à fait.
Et toutes trois, vous êtes ici pour nous annoncer donc une représentation, du moins 3 représentations, et qui s'intitule le Stabat Mater de Bergolesi. Vous nous expliquerez qui est ce compositeur, quasiment inconnu hein, pour moi. Voilà. Et donc, ce désir pour vous trois de vous constituer en cette petite formation pour exécuter cette œuvre, ça vient de quel désir ?
Alors, c'est parti d'une rencontre entre Sarah et moi dans les rues de Die. Moi, je suis dans le Diwa depuis 7 ans et Sarah, elle vient d'arriver. Et puis, dans le coin, il n'y a pas beaucoup de chanteurs et chanteuses lyriques. Alors, on se reconnaît vite entre nous, on se repère.
Comment ça se reconnaît
Je sais pas, une certaine aura peut-être. Et en fait, c'était quand je chantais sous le porche de l'église l'été dernier avec le trio velours. Et puis Sarah est venue, nous a écoutés et puis elle est venue me parler à la fin. Et ensuite, on s'est revus dans les rues, je sais pas, c'était lors d'une brocante. Et on a évoqué le Stabat Mater comme une œuvre, toutes les deux, qui nous touchait profondément. Et on s'est imaginé la montée. Et ça, c'était en hiver, là, cet hiver.
Oui, c'était il n'y a pas très longtemps.
Et puis ensuite, moi j'ai eu l'expérience il y a 13 ans de le monter avec accordéon quand j'étais en Suisse, quand j'étais étudiante à la Haute École des Arts de Berne. Et on avait monté ce Stabat Mater avec accordéon classique et mise en scène. Et j'avais vraiment adoré la présence de l'accordéon, parce que normalement c'est une œuvre qui est écrite pour cordes et basses continuo. À l'époque, c'était comme ça. Et là, avec l'apport de toutes les couleurs de l'accordéon, j'ai proposé à Sarah qu'on trouve une accordéoniste parce que c'est plus facile et plus mobile aussi que d'avoir un quatuor à cordes ou un orgue. Et puis, on s'est mis à la recherche d'un accordéoniste.
Lisa, vous donc êtes accordéoniste classique, un instrument plutôt rare dans l'orchestration de musique classique ou alors il y a une place bien établie pour cet instrument ?
Oui, alors c'est un instrument qui est assez récent parce qu'il date du 19e siècle. Et puis, dans sa forme actuelle, en fait, on travaille beaucoup de répertoires nouveaux, de créations. Moi, je suis également compositrice, donc j'ai beaucoup l'habitude de travailler avec des compositeurs, avec des personnes qui créent aujourd'hui pour l'accordéon. Mais en même temps, ce répertoire baroque fonctionne très, très bien pour l'accordéon. C'est pour ça que quand Sarah et Oriane m'ont proposé ce projet, j'ai tout de suite eu envie de le monter parce que ça apporte une belle couleur et en plus, la partition d'origine peut s'adapter très très bien à l'accordéon. En fait, il porte la voix, il y a ce côté instrument avant qui fonctionne très bien avec le timbre, avec le grain de la voix. Donc ça m'a tout de suite parlé de faire ce projet avec Oriane et Sarah.
C'est un peu l'accompagnement comme un chœur derrière les chanteuses.
Ça donne en tout cas de la richesse, de la profondeur à l'harmonie, quoi. On peut vraiment tenir les voix, faire vivre chaque voix. Il y a un côté un peu vocal dans l'instrument. Je pense qu'il est intéressant pour soutenir la couleur.
Et oui, et puis si je peux me permettre, c'est comme si elle était tout à la fois orchestre et chanteuse, parce qu'elle se trouve à chanter vraiment les mêmes lignes mélodiques que nous, parfois en écho, et tout à la fois, elle fait un travail d'arrangement de l'orchestre entière.
Vous-même, Lisa, n'êtes pas chanteuse ?
Non, non, non.
Et Sarah, donc, vous, ce désir de cette proposition, avec cette rencontre avec Oriane, c'est depuis un moment que vous le souhaitiez
Alors, oui, parce que quand j'étais enfant, je chantais cette œuvre dans un chœur et parmi les sopranos. Donc, évidemment, c'était pas du tout ma tessiture en grandissant. Et j'ai toujours adoré, c'est resté dans mon cœur, évidemment. Et je me suis dit que je souhaitais les chanter dans la bonne tonalité. Et si une rencontre se faisait... Là, vraiment, c'est comme si c'était une évidence, je dirais, le moment où on s'est rencontrés. Toutes les deux, on avait une expérience commune pour laquelle ça nous touchait. Et donc, voilà, ça a été une rencontre musicale assez évidente.
Alors, ce compositeur, Bercolesi, qui l'a rencontré la première de vous trois?
Alors moi, j'avais 11 ans. Bergolesi, Giovanni Battista, je crois que c'est son prénom.
Jean-Baptiste,
oui. Moi, je l'ai rencontré grâce à mon papa. Quand j'avais 11 ans, je pense que même plus jeune déjà, il y avait le CD dans notre voiture, une magnifique version de René Jacobs en contralto et d'un jeune garçon de 12 ans soprano. Et on l'a beaucoup, beaucoup écouté. Et un jour, j'ai dit à mon père, moi, en fait, je veux chanter cette œuvre. Et là, on est allé à un concert à Nice, dans une église du Vieux-Nice, je m'en souviendrai toujours, où j'ai fait dédicacer ma partition, que je commençais à travailler à l'époque, par les deux chanteuses qui l'ont chantée. Et c'est là où j'ai commencé à prendre des cours de chant, parce que j'ai dit, je veux chanter ça.
Et donc, pour vous, Lisa, cette rencontre avec Bergolesi aussi?
Moi, je connaissais cette œuvre depuis... j'ai dû découvrir, j'avais une vingtaine d'années. Je pense que moi, je viens de l'accordéon au départ plus populaire. Et puis après, je suis rentrée au conservatoire à 15 ans. Tout ça, je me suis initiée à toutes ces musiques que je ne connaissais pas. Mais oui, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. J'avais déjà joué des petits extraits et j'avais très envie de le monter dans son intégralité, quoi.
Pareil pour Sarah, la même question. Cette rencontre, c'est à quel moment ?
Voilà, c'était ce souvenir d'enfance de cette rencontre, de cette œuvre en entier et ce désir de la réchanter dans ma bonne tessiture.
Cet auteur, on peut en parler ouais. Il est de quelle époque?
Alors, c'est 18e siècle. Ça a été composé en 1736.
Ah ouais.
Ouais. Et Pergolesi avait 26 ans quand il a composé et c'était quelques semaines avant sa mort. Donc, il est mort d'une tuberculose qui était très, très fréquente à l'époque. Et c'est, a priori, ce serait une commande, mais c'est pas sûr. Les sources sont différentes. C'est un compositeur italien, bien sûr. Et le texte, c'est le texte de la Vierge Marie qui se tenait debout devant la mort de son fils. Et c'est toutes les, quelque part, les étapes de son deuil ou les étapes de toute son, je dirais, de... toutes les émotions d'une mère qui perd son fils et à la fois de se rendre compte que ce fils, c'est pas n'importe qui et que c'est l'Esprit Saint. Et donc, c'est tout son chemin, elle, d'humaine, à travers cette musique-là qui s'exprime.
Bergolesi, donc, répondait à une commande hein, par cette composition du Stabat Mater. Est-ce qu'il était voué essentiellement au chant liturgique ou religieux ou alors il y avait des œuvres plus libres?
Non, à l'époque, c'était que religieux et c'est la seule pour laquelle il a été vraiment connu. Il y a quelques autres œuvres en général qu'on associe à celle-là parce que cette œuvre, elle est courte, elle fait 40 minutes. Et souvent, on rajoute, il y a plusieurs, je ne sais plus
d'autres
les noms.
D'autres Stabat Mater, sans doute.
Ou d'autres Stabat Mater ou d'autres œuvres de Pergolesi qui sont moins connues. Mais lui, c'est vraiment ça, c'était ça. Il avait 26 ans, il était tout jeune, il n'a pas eu le temps de composer beaucoup.
Donc une œuvre de 40 minutes qui était à l'origine écrite pour combien de musiciens ou de chanteurs?
C'était pour deux voix, donc voix d'alto et de soprano. Combien de musiciens, je ne sais pas à vrai dire, vous savez?
En général, c'est violon 1, violon 2, alto, basse et basse continue.
Oui.
Donc 5.
Après, ça peut être évidemment adapté, arrangé, C'est plutôt voilà, classique à cette époque, c'est des commandes d'oratorio, de ce qu'on appelle d'oratorio, donc c'est des textes sacrés qui sont mis en musique, mais selon un certain code.
Alors, justement, j'interromps un peu Sarah. Oratorio, peut-on préciser ce que ça signifie?
C'est tout ce qui a à voir avec des œuvres liturgiques, surtout en termes de... C'est les textes qui les parcourent, en fait. Et ce texte-là, il est mis en musique. Ça peut être ça. Ça peut être un requiem, une messe des morts. Ça peut être... Voilà. C'est les différentes œuvres que plusieurs compositeurs baroques de cette époque, ça s'est un peu développé parallèlement à l'opéra, mais un peu précédemment. C'était ça la manière de composer.
Lisa, la tâche d'accompagner musicalement avec l'accordéon, ça vous a impliqué dans une réécriture ou d'avoir trouvé peut-être une partition existante pour pouvoir en jouer ?
Oui, il y a forcément une adaptation à faire, mais la partie de continuo marche très bien, la doublure des lignes vocales marche très bien. J'ai pas eu grand-chose à modifier, quoi. C'est une partition qui peut très très bien s'adapter. Enfin, on peut faire l'orchestre à remplacer l'orchestre à l'accordéon, en fait, sans faire vraiment de modifications, quoi.
L'instrument est assez conséquent, hein, en volume. Ça détermine une grande richesse de gamme, de registres.
Oui, ce qui est intéressant avec l'accordéon, ce type d'accordéon, c'est qu'on a vraiment une très très grande tessiture. En fait, on peut remplacer, on a vraiment une étendue de tout l'orchestre. Et puis, il y a une richesse de registres. On peut travailler sur la couleur qu'on veut vraiment donner, en fonction de l'articulation qu'on choisit, des tempi. Enfin, on peut tout adapter. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans ce qu'on fait, c'est que c'est quand même une recréation aussi où on mène notre patte, on apporte notre vision à une pièce qui est assez intemporelle, mais qui est ouverte à différentes interprétations, en fait.
Chacune des voix qui interprète représente quelle symbolise quelle présence ou quelle notion.
Alors c'est intéressant parce que dans la traduction du texte, on voit que parfois on parle de elle et de lui, donc elle Marie, lui le Christ, et parfois il y a un jeu qui intervient et on peut se demander qui est ce jeu. Est-ce que c'est comme le narrateur qui voit ça de loin? Est-ce que c'est nous humains? Oui. Nous qui sommes chrétiens a priori dans ce contexte-là, et donc comment être proche en fait de la Vierge et du Christ, c'était surtout ça, hein, le texte, c'était comment pouvoir être inspiré de cette traversée et comment ça peut enrichir la foi.
Et quand même on peut rajouter que aujourd'hui, même n'étant pas chrétien, on peut avoir un aperçu de cette œuvre, une réception de cette œuvre qui est extrêmement profonde. Et il y a quelque chose qui touche assez à l'essentiel et qui parle beaucoup de spiritualité et qui est touchant dans sa ligne mélodique et dans ses émotions, indépendamment du fait que ça s'inscrit dans cette tradition religieuse en particulier.
Moi, je voudrais rajouter que ce matin, on a chanté un petit peu sous le porche de la cathédrale de Die et qu'il y avait nombre d'enfants scotchés, oui. Des petits de 3-4 ans qui ne nous ont pas lâchés. Ils étaient avec le flyer clair. Et ils nous regardaient, ils ne voulaient pas partir. Donc, il y a quelque chose qui vient toucher directement les cœurs.
L'émotion aussi, est-ce qu'elle est en partie liée avec cette proposition qu'est la musique baroque, hein, qui touche vraiment au sentiment dans ce qu'on peut écouter, hein, avec ces divers compositeurs? Est-ce que c'est cette approche qui vous intéresse aussi, c'est de trouver la justesse de l'émotion?
C'est de quelque part d'être traversé par ces émotions universelles qui sont sublimées dans cette musique et qui touche à un endroit où peut-être on peut pas trouver les mots, surtout dans des périodes de deuil ou dans des moments de la vie structurantes comme ça, comme là, la mère qui perd son fils.
C'est de l'ineffable en sorte.
Sans doute, et aussi c'est les pouvoirs en général de la musique, c'est que ça peut arriver à dire avec des émotions ce que c'est que les mots ne peuvent pas suffire à dire, enfin ne peuvent pas être exhaustifs à dire, sans doute.
Oui, et peut-être on pourrait rajouter, enfin, moi je l'interprète comme il y a quand même beaucoup de lumières différentes, d'approches, de pattes, de couleurs, enfin on peut tirer des fils un peu, il y a une sorte de liberté dans l'écriture, j'ai l'impression, enfin, chaque mouvement, on peut découvrir un peu un autre univers, une autre vision, on n'est pas que dans l'émotionnel triste, en fait, il y a aussi de la clarté, il y a un côté parfois charnel, un peu, enfin, c'est très très riche, quoi, on peut y voir beaucoup de... De visions différentes.
Et souvent, justement, on a travaillé là-dessus. Il y a des morceaux, des parties de l'œuvre qui ont un texte extrêmement triste et profond, et pour autant avec une rythmique assez entraînante. Donc, on s'est questionné sur qu'est-ce que c'est cette dualité, qu'est-ce que ça signifie. Et il y a beaucoup d'ombre et des lumières qui se rejoignent et qui se chevauchent sans cesse. Et c'est peut-être ça aussi. Et avec une forme, quelque part, de simplicité. qui est assez troublante. Et c'est dans ce sens-là où il y a une forme d'absolu dans la possibilité de réception de ces émotions-là. Ça parle quelque part de la spiritualité en général, dans ses ombres et ses lumières, indépendamment de la croyance, je dirais.
Les textes eux-mêmes, dans ces... combien de mouvements existent dans cette composition ? Est-ce que chaque mouvement a son propre texte ? Et est-ce qu'il dégage une idée ou plutôt une émotion différente des autres ?
Oui, il y en a 12. Oui. Et donc 12 parties du texte, et parfois c'est une phrase, deux phrases qui sont mises en musique pendant 10 pages, et parfois c'est 3 pages où on dit que « Amen » à la fin. et ça se décline en fait, chaque texte peut prendre aussi des couleurs différentes au fur et à mesure de la musique.
Nous allons peut-être écouter un premier extrait, hein. Vous nous proposez donc d'interpréter en live dans notre studio de Erdiwa cette œuvre, quelques extraits donc, et on peut peut-être parler du premier mouvement qu'on écoute.
Donc le premier mouvement qui s'appelle Stabat Mater Dolorosa, la mère se tenait debout douloureuse, traduit littéralement, qui est donc le premier duo qui est le plus connu de ce Stabat Mater, sachant que c'est le Stabat Mater le plus connu qui ait été écrit.
Et donc, l'accordéon, quelle place occupe-t-il, justement, entre ces deux chants ?
Et c'est à la fois un rôle de doublure et de soutien, et aussi, dans ce premier mouvement, il y a une basse obstinée qui revient tout le temps, qui avance un peu inexorablement, donc et l'accordéon ouvre l'œuvre, là, dans notre version, sur ce premier mouvement.
Thank you. Ce travail vous a pris combien de temps pour vous mettre au diapason de cette œuvre ?
Ben alors, moi, elle est dans ma peau hein, depuis que j'ai 12 ans, donc j'ai pas eu beaucoup de travail personnel, en tout cas. Et puis, on s'est retrouvés seulement lundi, là, il y a 3 jours, pour commencer à répéter ensemble.
Lisa, pareil
Oui, voilà, j'ai préparé l'œuvre en avance, et puis après, ben, on se rencontre, et c'est là qu'on discute des choses intéressantes d'interprétation, de voilà, comment on crée quelque chose toutes les trois avec nos visions respectives.
Et puis donc, Sarah, le temps que ça vous a pris, 3 jours donc seulement
Non, quand même. Ça signifie avoir un travail, des préparations en amont, c'est 3 jours, c'est vraiment une rencontre musicale ensemble dans laquelle on va tisser les nuances, on va tisser la manière d'être ensemble. Et c'est là où ça se rencontre.
D'ailleurs, actuellement, j'imagine que vous répétez parfois. Est-ce que vous avez trouvé un lieu spécifique pour ça ?
Oui, comme on a une grosse production derrière, nous répétons chez Sarah, dans son petit appartement d'Ivoire.
D'accord.
Nous avons un super cuisinier.
Justement, une partie des enfants, ils sont les voisins qui nous entendent depuis 2 jours et qui nous ont accueillis à bras ouverts au milieu de la place pour nous dire que ça faisait 2 jours qu'ils nous entendent et qu'ils étaient tout contents. Donc,
sinon,
ils ont appelé tous leurs copains.
Sinon, vous disiez d'être sur le parvis de la cathédrale aussi pour
oui,
ce matin, par exemple.
J'adore aller sous le porche de la cathédrale quand c'est possible, quand il n'y a pas de messe ni d'orgue. Et parce que l'acoustique y est magnifique et que c'est ouvert aux 4 vents et que ça permet aux gens de venir se poser et de nous écouter. Et puis aussi de faire un peu de publicité pour nos concerts.
Est-ce que vous avez projection, vous trois, de vous lancer sur d'autres compositeurs peut-être pour l'avenir ?
Oui, nous en avons une assise à côté de nous, notamment.
Une compositrice vivante.
Une compositrice.
Lisa.
Voilà, donc on s'est dit, si on arrive à bien tisser les choses, on serait très contente d'associer ça avec une composition dans laquelle on peut dialoguer directement avec la compositrice. Ça, c'est une chance inouïe.
Il y avait aussi une idée par rapport au Stabat Mater, c'était potentiellement de le mettre en scène, comme j'ai fait moi il y a 13 ans, et que c'était assez génial et innovant. En Allemagne, ça se fait beaucoup de mettre des pièces sacrées en scène, mais en France, pas du tout, très peu.
Si ça se fait.
Ça commence, j'ai vieilli. Et là, on aimerait bien peut-être imaginer ça.
Et puis voilà, comme je le disais dans mon intervention précédente, il y a l'idée d'associer le chant aussi avec la hauteur, la suspension et introduire cet élément-là du trapèze et d'être suspendu en train de chanter. Par ailleurs, j'ai déjà eu l'expérience de chanter un extrait du Stabat Mater, donc les premiers, dans une production d'une chorégraphe dans la cathédrale des Bâles. Ça s'est passé et j'étais effectivement accrochée à mon trapèze. Donc c'était assez magique.
Lisa, cette tâche donc d'être compositrice pour de futures propositions entre vous trois, c'est un travail qui vous prend depuis de nombreuses années déjà dans l'écriture.
Oui, alors bon, moi je compose depuis plusieurs années avec différents ensembles, voilà, de musique contemporaine ou différents artistes. Et là, ça me parlerait beaucoup, en effet, de faire une création pour cette formation, parce que ce que j'aime, c'est travailler directement avec les gens, enfin créer des œuvres vraiment personnalisées. Et là, maintenant que je découvre de plus en plus l'univers de Oriane et Sarah, j'aimerais beaucoup écrire spécifiquement pour leur voix. C'est un travail que j'ai fait déjà cette année, parce que j'ai composé pour des chanteurs de Génération Opéra qui sur Paris. Donc je suis beaucoup dans ce travail-là de la voix lyrique et je verrais bien faire une création peut-être en écho justement avec ce Stabat Mater.
Uniquement en accordéon ou alors vous avez d'autres instruments ?
Moi, je joue uniquement en accordéon, mais je compose pour toutes les formations, orchestre, chœur, différentes formations de musique de chambre.
C'est de la musique contemporaine parfois aussi que vous composez ?
Oui, c'est de la musique contemporaine. La musique contemporaine, c'est très large, donc on ne sait pas toujours trop ce que ça veut dire.
Mais ça vit avec notre époque. Hein,
voilà, c'est une liberté. En plus, mon style change, évolue parfois en fonction des projets, des rencontres. Voilà, mais je travaille quand même sur ce qui est de la ligne mélodique, de trouver des textures, des couleurs. J'aime beaucoup l'orchestration, donc j'aime beaucoup sculpter un peu le son, en fait, avoir une première idée, et puis la sculpter de plus en plus, chercher des textures, des couleurs, des choses comme ça.
Alors, on a de la chance parce qu'on a vraiment trouvé une perle, sachant que Lisa habite à Lyon, et que heureusement elle connaissait le Diwa et ça lui a donné envie de revenir. Et j'aimerais bien que Sarah, tu nous racontes la petite anecdote de comment tu as contacté Lisa.
Eh bien, ça, c'est assez intéressant parce que j'étais en train de faire... j'étais dans une prestation à Trieste, en Italie, dans les fins fonds de l'Italie. Juste à la frontière avec le côté Yougoslavie.
La Slovénie,
tout à fait. Et donc, je rencontre Nicolas Mizen.
Qui est de l'orchestre de la Drôme. Hein.
Tout à fait, mais ça n'avait absolument rien à voir. C'était organisé par les forums Voix étouffées, par quelqu'un que je connais depuis Paris. Et donc, on se balade dans les rues de Trieste, et en parlant, il me dit qu'il venait de Die. Et donc là, c'était assez étonnant de se retrouver à se balader dans les rues de Trieste et de découvrir ça en commun. Donc je dis, que j'étais en train de m'installer petit à petit dans le coin. Et donc, je lui demande si à tout hasard, il connaissait quelqu'un qui soit dans le coin, qui puisse avoir envie de nous rejoindre sur ce projet. Et il me parle tout de suite d'Elisa, parce qu'elle fait partie de l'orchestre de la Drôme. Et donc, je l'ai contactée suite à cette rencontre dans les ruelles de Trieste pendant le printemps.
Lisa, qu'est-ce qui vous inspire dans une composition? Est-ce que c'est... l'actualité, l'émotion, le sentiment.
En général, je pars d'une idée autre que la musique. Alors, ça peut être... c'est souvent des... quand je lis, je note des fois des phrases, des images, comme ça, je me dis, ça va me... Enfin, j'imagine la musique sur des mots, souvent. Ou parfois sur un tableau, sur une image, une vidéo. Enfin, voilà, c'est d'autres éléments que la musique. Et tout de suite, Enfin, ça me vient comme ça des premières idées musicales et après je construis au fur et à mesure de manière. Je ne sais pas toujours vers quoi je vais, je n'ai pas forcément de plan très précis à l'avance et je fais un petit peu à la sensation au fur et à mesure et au bout d'un moment je vois plus ma pièce et je sens qu'elle est floue et qu'elle devient de plus en plus nette en quelque sorte.
Lisa, encore une phrase. De nos jours, la présence des femmes en tant que compositrices de musique classique, contemporaine, prend de plus en plus de place. Est-ce que certaines artistes vous ont inspiré ou donné envie?
Compositrice?
Oui.
Oui. Effectivement, c'est bien parce que c'est en train de changer. Il y a plein beaucoup de jeunes nouvelles compositrices. Donc, c'est très chouette. Moi, pendant mes études, j'avais assez peu de représentations. J'ai quand même des grandes figures comme Kaya Sarayao, qui était une grande, grande compositrice qui est décédée il n'y a pas très longtemps. J'ai quelques figures de référence comme ça, comme Usun Shin aussi, compositrice coréenne. Enfin, quelques-unes. Mais c'est vrai que c'est encore... on n'a pas encore énormément de modèles, quoi.
Pareil hein, pour Oriane, est-ce que des chants, quels sont les artistes qui vous ont donné envie de chanter, ne serait-ce que de les avoir écoutés?
Alors, j'ai eu la grande chance de voir en live à Monaco Cecilia Bartoli, qui est la chanteuse lyrique qui m'a donné envie de chanter quand j'étais petite, parce qu'elle est d'une grande expressivité et d'une grande humanité. Et puis, moi, ce qui a été pour moi le soutien inconditionnel à la musique, c'est mon père, qui vient de s'éteindre il y a quelques jours. Et puis, quand j'avais 10 ans, il m'a montré le film Amadeus. Et ce film, je l'ai regardé à peu près 200 fois et je connaissais tout par cœur. Donc, Mozart a été le compositeur qui m'a le plus donné envie de chanter. Et pour la petite anecdote, dans Amadeus, au début du film... on entend le Amen du Stabat Mater de Pergolesi au moment où le papa de Mozart meurt.
Pareil pour vous, Sarah. Quel artiste vous a donné envie de chanter?
Alors ça, c'est une question difficile parce que j'ai commencé par chanter vraiment complètement autre chose. Enfin, oui. pas du classique au départ.
Donc c'était inné en vous.
Donc oui, c'était vraiment la joie de la voix, mais pas forcément du classique au départ, quoi. Et après, ça a été une découverte, beaucoup d'écoute, évidemment. Mais oui, c'est venu au fur et à mesure, c'est venu à travers des rencontres et les faits d'avoir... associer les faits que je faisais beaucoup de théâtre, j'adorais ça, et que j'adorais la musique classique par pas du tout parce que je venais d'une famille où on écoutait de la musique classique, mais vraiment par une espèce d'élan personnel, complètement sans éducation, mais voilà, qui est instinctif. Et donc après, ça a été une rencontre vis-à-vis du fait que les personnes que j'ai rencontrées, ils m'ont renvoyé qu'il fallait que je chante et que je pouvais déployer cette voix pour l'opéra, et qu'il y avait quelque chose à trouver là-dedans, dans cette rencontre, dans l'expressivité théâtrale et dans la musique qui était sublime. Mais voilà, ça s'est venu au fur et à mesure.
Nous allons bientôt arriver à la fin de l'émission. Il va y avoir cette deuxième proposition musicale. Vous pourriez peut-être nous indiquer laquelle est-ce.
Donc on se disait que ce serait le troisième morceau qui est encore un duo.
Tout à fait. En fait, je me demande juste, mais c'est une question, hein. Peut-être ça, c'est une surprise.
On n'a pas eu le temps de se consulter.
Voilà, donc Stabat Mater, proposé par le trio donc Dorian, Lisa et Sarah, auront lieu le dimanche 2 août à l'église de Comps, près de Dieu le Fils. Ça sera le 2 août à 18h. Le 2 août, ouais, j'ai dit le 2 août. Hein,
désolé. Ah pardon, excuse-moi, j'ai entendu le 12.
Et ensuite, le lundi 3 au Temple de Die, donc bien proche de nous, à partir de 19h. Le mardi 4, ça sera à l'église de Saillant, toujours à 19h. Et pour des prises de contact, il existe un numéro pour vous joindre. C'est le 06 66 48 14 96. Et puis, d'autres informations à donner, oui, pour d'autres dates.
Non, moi je voudrais déjà préciser qu'on a choisi de faire ces trois concerts, enfin deux concerts que nous organisons nous, celui de Die et celui de Saillant. On a choisi de faire participation libre au chapeau pour pouvoir permettre que tout le monde puisse accéder à cette musique et à la qualité qu'on propose en tant que musicienne classique professionnelle. On n'est pas nombreuses tant que ça dans la région. Donc voilà, on a tenu à faire ça, donc c'est pour préciser ça. Et à Comps, c'est une magnifique acoustique et l'église est tenue par une association qui prend soin de cette église et qui fait un festival chaque été. Moi, c'est la troisième fois que je vais avoir l'honneur d'y chanter et c'est vraiment un endroit extraordinaire. C'est une petite église qui est perchée sur une colline avec une vue magnifique. Voilà, c'était pour aussi promouvoir ce lieu. Et ensuite, pour l'instant, on n'a pas d'autres dates, mais on compte bien en avoir.